15 500 ménages qui ont été expulsés. Mais on sait que là, ce ne sont que les statistiques qui concernent les forces de l'ordre, c'est-à-dire les personnes qui vont être évacuées par la police. Mais il y a deux à trois fois plus de ménages qui sont expulsés, en fait, hein, qui partent avant les forces de l'ordre. On a situations aussi qui touchent pas que les grands exclus, mais y compris les modestes et les classes moyennes inférieures, par exemple la précarité énergétique, qui est un sujet qui va vers de plus en plus de difficultés. À peu près 12 millions de personnes qui sont concernées par la précarité énergétique. Bref, on a des indicateurs qui peuvent pour certains évoluer un peu plus positivement et pour d'autres qui restent extrêmement élevés. Au final, notre pays compte à peu près 4 millions de mal logés. Et à côté de ces 4 millions de mal logés, qui sont les situations les plus dures, vous avez aussi 12 millions de personnes qui sont fragilisées par rapport au logement. Alors, je ne peux pas rentrer dans le détail de ces 12 millions de personnes fragilisées, mais c'est par exemple des personnes qui vont être dans des copropriétés dégradées, des personnes qui vont être dans des logements trop petits, donc le phénomène du surpeuplement, des personnes qui vont être dans l'habitat indigne, et Marseille a été une illustration, hein, évidemment avec une catastrophe innommable, mais derrière, c'est des milliers de personnes, en fait. On a découvert, enfin, nous on les connaissait, mais que le grand public ou les pouvoirs publics découvrent comme étant dans une situation de fragilité extrême. Du point de vue des politiques, on a un gouvernement qui dit, et nous étions vraiment en proposition avec le logement d'abord, hein, nous, la Fondation, mais aussi d'autres associations, en disant, c'est absurde, multiplier les solutions d'urgence, ce budget dont je parlais tout à l'heure, des nuitées d'hôtel, des hébergements pour quelques nuitées, sans régler le problème, si vous voulez. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On répond en urgence, avec des solutions d'urgence, à des situations d'urgence, mais on n'apporte pas la réponse durable. Et de fait, le logement est un élément essentiel de cette réponse durable. Pour la question de la santé, pour la question de l'emploi, pour la question de la vie familiale, pour les enfants, bref. Et donc, plutôt que de dire on va mettre en place des réponses d'urgence, faire du logement le levier de l'insertion, le levier de la réinsertion, plutôt que la récompense après un parcours du combattant, en fait d'hôtel, en nuité dehors, en nuité dans l'hébergement d'urgence, etc. On est plus efficace pour les personnes. D'abord, c'est mieux pour les gens, évidemment. On est plus efficace pour les personnes et aussi dans le bon usage des ressources financières de la puissance publique. Donc, le gouvernement dit, moi, ça me va bien, le logement d'abord. En campagne, on avait reçu les candidats, dont Macron, qui dit, ok, je prends. Plan quinquennal. Donc, plan quinquennal, logement d'abord, avec des objectifs intéressants en termes de construction de logements très sociaux, mais plus sociaux, des logements sociaux. En création de réponses aussi spécifiques, je pense aux pensions de famille que nous développons beaucoup à la Fondation, où le gouvernement dit qu'il faudrait 10 000 places de plus pendant le quinquennat. Ce sont des logements individuels, mais avec des espaces collectifs. On va aussi essayer de mobiliser le parc privé à vocation sociale. Bon, bien plutôt, hein, une intention. Mais, et je m'arrêterai là-dessus pour répondre à vos autres questions, le problème c'est qu'à côté de ce plan quinquennal, on a un gouvernement qui a choisi de baisser la dépense budgétaire du pays. Et pour faire cette dépense budgétaire, de couper prioritairement sur la question du logement. Par la baisse des APL pour les gens et par la baisse de moyens dédiés au logement social. Baisse APL, baisse de moyens dédiés au logement social, avec des coupes qui vont atteindre 3,8 milliards à 4 milliards par an à partir de 2020. C'est énorme, on n'a jamais connu ça. Donc pour conclure, c'est de dire...
En 2020 ?
Oui, en rythme de croisière. C'est-à-dire qu'en 2020, on sera à 3,8 milliards, 4 milliards d'économies sur le logement. Non, par an.
Par an ?
Ouais, c'est une montée en puissance progressive jusqu'en 2020. Et tous les ans, ça devrait revenir comme ça. Et donc, si vous voulez, il y a un énorme paradoxe. Une crise sociale majeure, pas rentrer dans le détail, hein, mais que j'ai un peu évoqué, une volonté positive de faire du logement d'abord une bonne réponse pour les gens et pour les finances publiques, mais en même temps, on coupe sur les deux leviers principaux de l'exercice de la solidarité dans le domaine du logement, que sont les APL et le logement social. Donc, on n'arrivera pas, malgré la bonne intention, malgré des choses positives qui se font ici ou là avec le logement d'abord, à changer d'échelle avant la fin du quinquennat, si on continue comme ça. Et c'est ça notre inquiétude de la Fondation.
Est-ce que le logement ne fait pas partie justement d'une chaîne de précarité qui intègre autant l'emploi, les revenus, et que c'est souvent le logement qui est un...
Si, vous avez raison. Alors, il y a deux choses par rapport à cette question. C'est que, évidemment, le mal logement naît structurellement quand même de ces deux dimensions, c'est-à-dire une précarisation des ressources d'un côté, hein, donc l'augmentation du chômage, même si on l'a quelques baisses hier, mais je parle à l'échelle des 10 dernières années, on est dans un chômage de masse, avec un phénomène aussi de travailleurs pauvres, très préoccupant, hein. Je bosse, mais je suis néanmoins pauvre, je bosse, mais je suis néanmoins potentiellement mal logé.
Vous avez des évolutions par rapport à l'année dernière ?
Non, pas par rapport à l'année dernière. Non, les chiffres annoncés hier sont plutôt positifs de ce point de vue-là, en termes de stabilisation du chômage, mais moi je vous parle d'un chômage de masse ancré, mais du chômage globalement, et même si sur la question de la précarité d'emploi, il semble que les indicateurs sont plutôt positifs, mais à l'échelle de 3 mois, donc moi je vous parle d'un phénomène... Ouais, en tout cas... les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont dans leur poche et qu'est-ce qu'ils peuvent se payer. Et
donc, 0,1%.
Oui, non, mais il y a quand même des... Mais peu importe. Par contre, sur la question que vous posez, c'est effectivement une précarisation des ressources quand même. Et par contre, des coûts du logement qui n'ont cessé d'augmenter depuis 15 ans, surtout depuis les années 2000. Doublement des prix de l'immobilier en moyenne, entre 2000 et 2012. Donc, depuis, ça s'est un peu stabilisé, mais ça reste là, le doublement. Augmentation de 50% des loyers et flambée des charges. Gaz, eau, électricité. Donc évidemment, ce double phénomène est la conjonction de deux facteurs qui produit le mal logement que l'on connaît. Par contre, et c'est ça l'idée du logement d'abord, à l'inverse, le logement, l'accès au logement même pour des personnes en situation de précarité, va permettre justement, parce qu'on va se poser, on va pouvoir se laver, on va pouvoir se soigner, se reposer, se mettre en condition de trouver un emploi, etc.
C'est un peu ce qu'on a expliqué l'année dernière, parce que c'était dans l'actualité.
Sur le logement d'abord, tout à fait.
Et maintenant, c'est un observateur de cette question. Est-ce que des choses... Qu'est-ce qui a bougé sur ce
logement d'abord? Alors, beaucoup de choses quand même. Mais oui, alors, pas au point de faire bouger les indicateurs macroéconomiques que je vous donnais,
d'accord,
mais beaucoup de choses ont bougé.
Oui.
Nous voulions, les acteurs associatifs, la Fondation, que ça ne soit pas juste une consigne d'État. Parce qu'on sait très bien que les beaux discours des ministres, des présidents, quand bien même c'est nécessaire, si ça ne se décline pas sur les territoires, c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe, ça ne marche pas, quoi. Et donc, le gouvernement a lancé des appels à manifestation d'intérêt pour le logement d'abord, ce qu'on appelle des AMIS, qui aujourd'hui ont été saisis par un certain nombre de collectivités, et 23 territoires ont été retenus pour mettre en œuvre, alors on dit de manière accélérée, c'est là où la réalité est un peu autre, mais enfin, de la mise en œuvre accélérée du logement d'abord. Ici, vous avez Mulhouse et vous avez Strasbourg. Mais on peut, si on élargit à la région, il y a Metz. Donc l'idée, c'est de dire il faut que l'État donne des moyens et une impulsion et que les territoires s'en saisissent. Donc, la manière dont les territoires s'en saisissent est en train de bouger. C'est-à-dire que ça devient une préoccupation. La compréhension de l'intérêt du changement de manière d'agir ailleurs, elle est acquise, on va dire. Mais ce qui est évidemment pas du tout au rendez-vous, c'est le changement d'échelle. Vous avez ici et là des gens qui, dans leur plan logement d'abord local, vont dire « Bon allez, aujourd'hui, on permet pour cette catégorie de personnes, aller les sortants de prison ou l'aide sociale à l'enfance, on était à 20 logements, on va passer à 40, 50. » Alors c'est bien, franchement c'est bien, enfin, je ne vais pas cracher, c'est toutes des situations à qui on va apporter des personnes à qui on va apporter des réponses, mais le changement d'échelle n'est pas du tout au rendez-vous à ce stade encore. Et c'est là où ça recoupe les moyens aussi dédiés que j'évoquais tout à l'heure. Et puis surtout ne pas lâcher la pression pour atteindre ces objectifs, pour qu'on ait plus de logements sociaux localement, mais vraiment de logements sociaux à bas loyer, parce qu'il y a toute catégorie de logements sociaux. On prenne du logement vide, du logement vacant pour en faire des outils de logement privé à vocation sociale. Il y a plein d'outils pour ça, mais il faut se mobiliser pour le faire. Que de fait, on donne de l'accompagnement aux gens, qu'on accompagne socialement et juridiquement les personnes. Et là, il manque considérablement de moyens, vraiment, de moyens financiers. Donc, dire on va faire le logement d'abord sans accompagnement, on sait que ça ne marchera pas. Prévenir les expulsions locatives localement pour que, vous savez, les gens, on les connaît, on sait, hein, ceux qui vont être expulsés, hein, ils sont dans les fichiers. On peut aller les voir. On peut plutôt prévenir que punir. Et donc, ouvrir des droits, accompagner ces gens. Ah, vous ne saviez pas, vous pouviez avoir une aide du département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, les accompagner pour tout ça. Donc la dynamique est enclenchée au sens de l'intention. Il y a des choses ici ou là qui sont plutôt intéressantes, mais le changement d'échelle et notre capacité à vraiment passer à la vitesse supérieure, on n'y est pas du tout. Mais on ne désespère pas, c'est-à-dire que nous on va tout faire pour pousser tous les acteurs, on va évaluer, on va mettre aussi la main à la poche, hein, contribuer financièrement à apporter des réponses, etc. Mais on a encore du chemin devant nous, largement.
Vous avez chiffré à peu près les besoins que représenterait en moyenne pour aller vers
les... Alors, les besoins à cela, tout dépend de quoi on parle. Par exemple, les coupes sur le logement que j'évoquais tout à l'heure, APL et logement social, oui c'est une erreur. Couper 4 milliards, on peut moins faire quand on a 4 milliards en moins. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'être fin économiste. En termes d'accompagnement, oui, il faut monter beaucoup plus. Alors, le gouvernement vient d'annoncer, il y a 10 jours, qu'il mettrait 15 millions d'euros de plus sur l'accompagnement social. C'est déjà un début, on ne sait pas encore s'il faudrait... Je pense qu'il faudra monter un peu en charge quand même.
On est à combien ?
C'est très difficile, parce qu'on n'a pas les chiffres, parce qu'il y a une partie qui vient des départements, en termes d'accompagnement social, par rapport à ce qu'on appelle la SLL, l'aide sociale, l'accompagnement social lié au logement. Il y a une partie qui vient par l'État, ce qu'on appelle l'AVDL, c'est l'accompagnement vert et dans le logement. Et c'est celui-là qui est augmenté de 15 millions, mais qui était vraiment un parent pauvre. Hein.
Il a augmenté de 15 millions et au départ, il était combien ?
Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas la mémoire. Tu sais combien c'est l'AVDL au niveau national annuel ? Je crois que c'est peu, hein, parce que si vous voulez, c'est un fonds, la VDL, qui est alimenté annuellement par les pénalités des villes qui ne remplissent pas leurs objectifs de logements sociaux dans la loi SRU. Donc c'est très fluctuant, si vous voulez. Donc c'est pas un droit ouvert, ce qui est un problème. Et donc ça fluctue beaucoup, mais je ne peux pas vous dire. Et puis, du coup, la responsabilité, vous voyez bien, elle est, en termes financiers aussi, elle est de différentes natures. Il y a l'État, on en a parlé avec les 4 milliards. Il y a les départements qui ont aussi la vocation sociale, notamment liée au logement, avec le Fonds de solidarité logement, les FSL gérés par les départements. Des collectivités aussi qui vont mettre la main à la poche, des associations qui vont mettre la main à la poche. Enfin.
Et la question des personnes qui n'ont pas de droits.
La question des personnes qui n'ont pas de droits.
Je pense, je sais pas, des familles déboutées, des gens qui se retrouvent. Est-ce que la fondation
des biens, parce qu'on retrouve quand même aussi des personnes dans du logement indigne,
à la rue. Dans des campements, dans des bidonvilles, absolument.
Alors, sur cette question-là, vous avez un terrain d'approche avec le gouvernement ou bien...
Complètement. Le terrain d'approche, il est au regard non pas de la question de la politique migratoire, mais au regard de la question des acteurs de l'hébergement d'urgence et du logement accompagné, de l'insertion par le logement. D'abord, nous, on est de ce point de vue très sommaire, on regarde la loi. La loi nous dit personne ne doit rester à la rue et ça n'est pas une question de statut administratif. D'accord ? L'accès au logement social pour les personnes sans papier ou qui ont des droits incomplets n'est pas possible en termes avec un statut de droit commun.
Mais comment on gère cette contradiction ? Personne à la rue, mais pas de droit pour
alors,
les gens qui n'ont pas
de
droit.
Alors attendez, parce qu'après il faut rentrer dans la nuance. De qui parle-t-on ? Nous ne sommes pas aujourd'hui calibrés pour répondre en termes d'hébergement ou de logement à tous les demandeurs d'asile. C'est-à-dire qu'il manque de place d'hébergement pour les demandeurs d'asile, alors que c'est notre devoir statutaire.
Oui, alors que c'est premier eux, élément. Ils y ont droit.
Alors, eux, ils... Non. Tout le monde y a droit à l'hébergement d'urgence. Tout le monde.
Oui, d'accord.
Ah oui. Okay. Et là, je parle d'une partie de cet hébergement qui est normalement dédiée aux personnes demandeuses d'asile. Et donc, comme il n'y a pas assez de place dans la demande dans l'hébergement pour les demandeurs d'asile, ça se déporte sur tout le secteur de l'hébergement généraliste. Et là, on se retrouve dans des tensions. Donc là, il y a un problème. Donc, premier objectif, développer quantitativement le nombre de places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les CADA. Donc le gouvernement a dit qu'il allait augmenter, mais on sait très bien que ça ne sera pas suffisant. Ensuite, il nous faut être en capacité de mettre un hébergement d'urgence sur la tête de tout le monde. Objectif, pas à discuter. Avec les accueils de jour, avec les hébergements, et là, on a des catastrophes sociales, des enfants à la rue aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas en capacité de le faire. Mais évidemment, pourquoi ? Parce qu'il y a une contradiction, c'est celle que vous pointiez. Parce que d'abord, dans l'hébergement d'urgence ou d'insertion, il y a des gens qui pourraient être dans le logement. Mais faute d'être en capacité de leur apporter une réponse dans le logement social ou le logement privé à vocation sociale, ils restent dans l'hébergement. On sait ça depuis une dizaine d'années. C'est insupportable parce que d'abord, pour les gens, ils ont un coup près, on leur dit bah, « va falloir que vous partiez, mais oui, mais d'accord, mais je vais où ?» Et du coup, pas assez de place pour tout le monde, papier ou sans papier, pour mettre à l'abri toutes les personnes en situation de fragilité extrême, enfants notamment. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement inquiétant que la France ne se mette pas en capacité de répondre à tous les demandeurs d'asile, mais surtout à toutes les personnes à la rue. Donc là, il y a un enjeu majeur. Après, nous n'avons pas vocation à aborder la question de la politique migratoire, mais quand même, sur un point. Nous pensons que beaucoup de personnes sans papier ou à droit incomplet sont aujourd'hui, et parfois depuis 7, 8 ans, 10 ans, à l'hôtel. Ça coûte cher, c'est pas bon pour eux parce qu'ils ne peuvent pas faire la cuisine, ils ne peuvent pas inviter des gens, etc. Et de fait là, le droit nous donne la capacité de régulariser ces personnes plutôt que de les maintenir dans une situation paradoxale que vous décrivez absolument, qui est de dire « mais ils ne peuvent même pas accéder au logement, mais pourtant on les garde à l'hôtel, etc. » C'est absurde. Les enfants sont à l'école, les parents bossent, ils sont installés, ils ne partiront pas, on le sait très bien. Et là, de fait, il y a un travail à faire de ce point de vue-là pour que la circulaire Valls, par exemple, soit appliquée. Hein, au bout de 3 ans, 4 ans, etc. Et pas aujourd'hui.
On y viendra cet après-midi, mais il y a des villes qui ont pris l'initiative avec des associations pour proposer du logement, un hébergement d'urgence en logement pour
absolument.
Ces personnes à droit incomplet, pour favoriser la régularisation et pour essayer de travailler. Donc il y a vraiment des choses qui se font
pour les
collectivités locales qui soutiennent. C'est pas. Voilà.
Et effectivement, on est complètement dans le logement d'abord, c'est-à-dire, et d'ailleurs des bailleurs sociaux s'y engagent. Le logement, c'est l'enveloppe, mais c'est aussi le statut. Et on peut très bien loger des personnes dans des logements, par exemple, vacants dans des villes où le logement social, une partie est vacante, si vous voulez, mais avec un statut d'héberger pour ces personnes. Et ça se pratique et ça marche plutôt très bien.
Est-ce que ça manque pas singulièrement de coordination entre les différents intervenants? Je sais qu'on le dit quasiment chaque année, entre les divers intervenants qui trouvent du logement.
Si, si, bien sûr. Ce dont on souffre, et ça on connaît bien les politiques publiques parce qu'on les évalue quand même depuis maintenant une vingtaine d'années, localement, nationalement, le problème c'est qu'on n'arrive pas pour plein de sujets à savoir qui est responsable de quoi. Vous avez l'État qui est responsable de la solidarité, la question des migrants. Vous avez le département qui est responsable de l'action sociale. Vous avez le maire qui est responsable de décider si on construit ou pas et qu'est-ce qu'on construit ou pas, parce qu'il est responsable du foncier. Vous avez l'intercommunalité, la métropole, qui a des compétences en matière de logement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens qui ont des responsabilités dans cette histoire-là et ils se renvoient la balle, en quelque sorte. Et surtout, on ne sait plus à qui s'adresser quand on est dans une difficulté majeure. Et donc, la question du chef de file, la question de la responsabilité et la question de auprès de qui on peut aller dire « mais moi, j'ai mon droit, hein, j'ai tel droit, mais aujourd'hui il est bafoué, comment je vais valoir ce droit ?» Elle est fondamentale, fondamentale. Et c'est aussi tout ce qui relève, mais de ce qu'on a parlé ce matin, de la coordination des acteurs, c'est une complexité inouïe. Alors quand vous êtes à la rue, quand vous êtes très mal logé, quand vous avez vécu des choses très difficiles, vous n'y comprenez rien, il faut raconter 100 fois votre histoire pour justifier d'avoir un repas, pour justifier d'avoir un hébergement, c'est vraiment insupportable.
Et qu'est-ce que vous dites aux élus
qui disent,
enfin, je pense que vous parlez un petit peu, finalement, c'est un choix politique, hein.
Ah mais vous parlez des migrants là. Pas seulement.
Je parle même en général, je dirais, de la pauvreté en charge.
Ouais. Alors là, je ne vais pas être tendre. Non, voilà. Si vous laissez un peu ce que je disais en conclusion, mais je ne sais pas
parce
si...
Parce que je pense qu'il y a une frilosité politique dans notre endroit. Toujours cet argument qui revient, appel d'air, sans utiliser le...
Oui, je vois bien. Très, très sincèrement, sur cette question, qui à mon avis est le cœur du problème.
Est-ce que vous pensez qu'il faut passer par, comme ce qu'a été finalement la loi SRU à son époque, au lieu de dire maintenant, ou bien comme ce qui a été finalement le centre d'orientation pour les à un moment qui a été mis en place, on n'a pas demandé aux élus, on leur a dit, très très peu, on leur a dit en gros, on va ouvrir, c'est l'État qui dit finalement pour qu'il y ait une meilleure répartition, on l'inscrive de façon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez comme proposition pour faire tomber cette...
Je ne pense pas que la réponse sera que législative, elle peut l'être. La loi SRU sur les 25% de logements sociaux est une très 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 bonne loi, qui a été plutôt bien appliquée, contrairement à ce qu'on croit. Même parce qu'en fait, il y en a qui l'agitent en disant on ne l'appliquera pas, etc. Mais quantitativement, on a le bilan dans le rapport. Très efficace pour donner le ton de la société que nous voulons. C'était l'idée de dire... pas normal que ce soit toujours les mêmes collectivités qui fassent l'effort de solidarité en créant du logement social. Tout le monde doit faire l'effort, au moins un peu, au moins 20% comme c'était en 2000 quand elle a été votée. Donc c'est intéressant qu'il y ait des leviers législatifs qui donnent le ton, c'est fondamental. Comme le gouvernement a dit, par rapport au rapport de cette année, il faut qu'on dise, personne ne doit sortir de l'aide sociale à l'enfance sans solution de logement, c'est l'objectif. Très bien. Mais législativement, ça ne suffira pas. Aujourd'hui,
sans solution d'hébergement.
Oui, de logement. Aucune sortie sèche, en fait, c'est un projet de loi bourguignon qui est débattu en ce moment, etc.
Dont ont été exclus alors, parce que j'ai entendu votre parole tout à l'heure.
Attendez, je vais répondre à votre question parce que c'est des fils. Alors, je vous dirai précisément de ce qui s'est passé. Mais pour répondre à votre question, c'est déjà dans le droit. Personne ne doit rester là. Il n'y a pas de question de papier. C'est l'accueil inconditionnel. Et l'autorité publique doit apporter une réponse à chacun. C'est une loi de modernité, c'est de dire la sixième puissance du monde ne peut pas laisser des gens à la rue. Donc on a déjà les outils législatifs, donc ça ne suffit pas. Donc il y a bien autre chose dans votre pays. Au fond, nous avons été insuffisants. Je ne dis pas que c'est facile, mais nos sociétés modernes, y compris riches, y compris occidentales, accroissent les inégalités. Continue à produire de l'exclusion. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On dit, tant pis, il y a des gens qui s'en sortiront, il y a des gens qui ne s'en sortiront pas, c'est la jungle. Ou on dit non, parce que c'est de la modernité, parce que c'est la dignité, parce que c'est nos principes fondamentaux qui sont engagés. Nous devons tout faire pour ne pas laisser des personnes à la rue, pour ne pas laisser des personnes sans soins, pour ne pas laisser des personnes sans alimentation. Je crois qu'on est encore dans cet objectif en France. Mais il faut faire attention, vous avez raison. Parce que comme nous n'avons pas su apporter une réponse à tout, tout d'un coup c'est visible. Et puis tout d'un coup il y a l'idée qu'il y a la concurrence entre les publics, mais qui est-ce qui profite finalement du système? Mais est-ce que vraiment ils veulent se bouger, ces gens-là? C'est de fait notre incapacité à répondre qui nous conduit à poser des mauvaises questions. Et là pour le coup, à la Fondation Abbé Pierre, il n'y a pas de question. On est dans le prolongement de l'Abbé Pierre. On n'acceptera jamais, de renoncer à tendre la main à une personne à la rue, à quelqu'un qui vit dans un bidonville ou quelqu'un qui est en situation de pauvreté. Et je pense qu'à ces élus-là, il faut dire que c'est une des principales richesses de la France. Sa protection sociale, sa volonté de lutter contre l'exclusion et les inégalités, et qu'elle peut être, on peut continuer à être le fer de lance dans le monde, bien sûr dans l'Europe, sur la capacité à apporter une réponse satisfaisante à chacun. Et j'allais dire, juste un dernier point, je pense que de toute façon, on s'en sortira que comme ça collectivement. Si certains croient qu'on va réussir à vivre en paix avec la résurgence des bidonvilles, avec des personnes maintenues dans certains quartiers de nos villes, en espérant qu'ils ne bougeront pas, qu'ils ne viendront pas envahir le centre-ville un jour ou l'autre, En laissant crever des personnes avec 500 euros au RSA, quand on a une femme seule avec deux enfants ou je ne sais pas quoi. Bref, non, on ne s'en sortira pas. Et tout le monde ne s'en sortira pas. Je vais prendre juste un exemple, la question des maladies. On est confronté aux maladies dans les bidonvilles. Eh bien, c'est d'abord un problème pour les gens qui sont malades, mais c'est un problème pour toute la société, de santé collective, de santé publique. Et donc, ne renonçons pas à ces objectifs fondamentaux et ne nous trompons pas de combat, même si je sais que c'est pas facile. Et en tout cas, nous, on ne lâchera pas, ça c'est sûr. Juste sur l'aide sociale à l'enfance, c'est juste que la députée Bourguignon qui a porté cette proposition de loi et les échanges que nous avons eus avec Macron, Premier ministre, ministre du Logement, Madame Buzyn sur ces sujets et Adrien Taquet, qui est donc le secrétaire d'État qui a été nommé pour ce sujet, et qui ont beaucoup dit que le rapport à la Fondation est vraiment intéressant. Effectivement, on va s'engager vers une protection jusqu'à 21 ans et pas de sortie sèche, c'est-à-dire pas de sortie de l'aide sociale à l'enfance sans logement. Eh bien, ce qui nous a extrêmement préoccupé, c'est que c'est un amendement du gouvernement qui a réduit la voilure par rapport à cet objectif. Donc voilà, le circuit législatif n'est pas fini pour cette proposition de loi. On va continuer à faire du plaidoyer. Mais il ne faut pas perdre de vue quoi, l'ambition qui était la leur.
Parce que ce qui était prévu, c'était...
Il a été adopté. Ouais, pas seulement, pas seulement. Mais en plus, la PAC n'est pas que ce bon sur les ministres.
Absolument, ça. C'est un des effets. L'article 1 prévoyait un accès universel aux contrats jeunes majeurs. Et l'amendement est revenu en disant
que
ça va être contractualisé, on met un certain nombre de conditions.
Il aurait été dans les couverts par l'aide sociale à l'enfance 18 mois dans les deux dernières années. C'est pour ça que c'est pas que les. Ça va toucher d'autres pays. C'est pas que les mineurs isolés, mais aussi.
Et du coup, il y a un certain nombre de jeunes qui ne sont pas, qui ne pourront pas en profiter. Alors qu'avant, c'était prévu comme universel, dans un très bon travail fait avec les associations. Pas pour revenir en arrière.
Est-ce que selon vous, les inégalités territoriales ont bougé ces dernières années à propos du même niveau?
Oui,
parce qu'ici, sur Mulhouse, il faut quand même reconnaître que c'est vrai que Mulhouse est entourée dans la communauté ou dans l'intercommunalité. On ne peut pas dire que tout le monde s'y mette. Il y a quand même une partie de la couronne mulhousienne qui n'est pas véritablement branchée.
Oui, c'est une question majeure parce que je sais qu'ici, c'est compliqué. Oui, d'abord oui, on parlait des inégalités de ressources tout à l'heure, on voit bien que l'écart se creuse, hein. C'est vrai aussi territorialement. Et ça s'explique beaucoup par, même si à Mulhouse par exemple, ça reste un peu plus contenu que d'autres métropoles, par l'augmentation et la cherté du logement et de l'immobilier. Il y a ceux qui peuvent se loger où ils le souhaitent, proche de leur lieu de travail, proche des communautés, centre-ville, etc. Et il y a ceux qui ne peuvent pas se loger proche de leur lieu de travail, etc. Et puis il y a des espaces qui sont en fait, entre guillemets, réservés à ceux qui ont des ressources faibles. Et ce qui a pour effet, et c'est lié aussi à notre urbanisation, de concentrer la pauvreté dans les secteurs urbains d'État. Et donc la loi SRU, par exemple, est un levier pour limiter ces effets-là. Mais le marché va beaucoup plus vite que ce que la loi SRU permet de réparer. Donc là, il y a des enjeux très très forts. Et c'est pour ça que nous appelons aussi à la mobilisation à l'échelle des métropoles, montée en puissance de la politique du logement, de l'habitat, de la solidarité au niveau de la métropole, pour corriger ces écarts. Dans certaines villes entre l'Est et l'Ouest, d'autres entre le centre-ville et tout le reste de la périphérie de la métro, enfin de la ville-centre. C'est essentiel parce qu'en fait, c'est la question de la ville solidaire. C'est la question du vivre ensemble qui est posée derrière. Donc là aussi, c'est des choix de société, c'est des fondamentaux. Si on laisse seul le marché gérer la façon dont s'organise la ville, on est foutu. On connaît avec d'autres expériences. Et c'est marrant parce que dans notre pays, on a beaucoup de mal à bien vouloir réguler les marchés immobiliers. Il y a en Allemagne, en Suisse, l'encadrement des loyers est déjà depuis longtemps mis en place. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'ils disent, à partir d'un moment où c'est excessif et que les gens ne peuvent pas se loger, comme c'est un bien de première nécessité, c'est pas absurde de tempérer un petit peu. Ça ne veut pas dire tout administrer, mais de tempérer un peu, de regarder, de plafonner, d'encadrer, bref.
Et
nous, on a vraiment beaucoup de mal en France. Donc là, il y a un enjeu très très fort.
lié à lobbying des propriétaires ou
c'est très culturel. Moi, je le vois parce que c'est effectivement... Alors, il y a du lobbying des acteurs économiques de l'immobilier dans leur ensemble. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est globalement... C'est, moi, on me dit depuis 15 ans, ça va s'autoréguler. Vraiment, hein. On me dit, ça, vous savez, ça va s'autoréguler. Hein. Et à un moment ou à un autre, ça baissera. Mais sauf que ça fait 15 ans que je regarde et que ça ne baisse pas. Et donc, si ça baisse dans des endroits où il n'y a plus personne, où il n'y a plus d'activité économique, baisse démographique, déprise économique, enfin bref... voilà, donc je pense qu'il faudrait qu'on ait un débat public là-dessus, en disant mais le logement c'est tellement essentiel pour tout le reste que peut-être qu'on pourrait réfléchir à la régulation du foncier, des loyers, des charges. On peut discuter avec les opérateurs d'électricité, de gaz, etc. Bon, de trouver les bons équilibres, ça me paraît fondamental.
Une dernière question pour moi. On est à la veille des élections européennes. Est-ce qu'il y a une... Est-ce que la Fondation a une demande spécifique au niveau d'une action communautaire, par exemple, autour de ces questions du logement?
Alors, une demande spécifique, non, mais plein de demandes, oui. On vient de sortir donc un rapport sur l'état du mal logement en Europe, que vous pourrez trouver sur notre site. On a plusieurs registres de demandes, mais pour ne pas faire long, vous dire quand même qu'en Europe, on voit augmenter le phénomène des sans-abri et des sans-domicile de manière très préoccupante. Donc, notre principale demande, c'est mettre en place le logement d'abord partout en Europe. La Finlande l'a mis en œuvre depuis plus de 10 ans maintenant, avec des résultats très très positifs. Donc on a là aussi des leviers européens pour nous montrer un très bon exemple à Finlande, un très mauvais exemple à Hongrie, qui, plutôt que d'apporter des solutions, pénalise durement, même d'emprisonnement, les personnes à la rue tombent. Vous voyez bien, deux extrêmes. Nos demandes, c'est que l'Europe se préoccupe de la question sociale, davantage, des solidarités et du logement. Elle peut jouer un rôle très important sur la production de logements à loyer accessible. Elle peut jouer un rôle considérable aussi sur la rénovation thermique des logements. Avec une banque européenne, c'est une de nos propositions, mais qui est partagée, je le constate depuis quelques semaines, assez largement. Parce qu'il y a des retours sur investissement intéressants dans la lutte contre les passoires thermiques, la rénovation, la précarité énergétique, etc. Donc là, il y a des enjeux très, 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 très forts. Et qu'elle soit porteuse aussi d'un discours sur la question de la solidarité. Qu'elle ne soit pas simplement notre contrainte budgétaire. Et donc voilà, on voudrait vraiment profiter de ces élections. C'est pour ça qu'on a fait ce rapport, c'est pour ça qu'on a fait une journée de présentation avec les candidats. Bref, voilà, vous trouverez un peu notre terminologie à cette occasion-là. Mais nous, on pense que c'est pour ça qu'on a créé une mission Europe il y a 5 ans à la Fondation. On pense que l'Europe, c'est aussi ce qu'on en fait nous, hein, les citoyens. Donc on appelle aussi à une mobilisation citoyenne pour demander une Europe qui ne soit pas que concentrée sur la rigueur budgétaire, pour dire les choses simplement.
Très bien.
Merci.
Merci.
Du coup, on a fait plus d'une nation.